Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'actu avec un pas de côté, deux heures d'info feel good qui essaye dans le marasme actuel de vous faire voir le bon côté des choses, à l'instar d'Axel de Tarlé, notre expert éco hier.
On ne fait que se lamenter sur les 30 millions de chômeurs aux États-Unis, mais on oublie les actionnaires.
Eh oui, n'oublions pas les actionnaires. Parmi les plus gros porteurs de Wall Street, justement, elle détient 22% de Facebook, 19% d'Amazon. Eva Rock est avec nous chaque après-midi, pro bono, évidemment, et c'est adorable de votre part. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'il faut regarder sur les écrans ce soir.
Oui, Eva. Avec un hommage à Daniel Piccoli avec vos histoires, mais vous êtes énervé.
Encore trompé.
Ah, Michel Piccoli. Hein,
Michel
voilà.
Piccoli.
Exactement. Mais moi, et une nouvelle série sur Netflix.
Ce soir, on ne parle pas de Daniel Piccoli.
Non, de Michel Piccoli.
De Michel Piccoli. Alors, vous le savez, l'équipée sauvage, c'est comme les marchés financiers, Eva, c'est la compétition de tous contre tous. Deux nouveaux journalistes nous ont rejoints pour tenter de décrocher le titre de chroniqueur du jour. Le premier va répondre à cette question que vous vous posez peut-être à l'issue de ces deux mois de confinement. À quoi va ressembler la vie de bureau demain ? Question à laquelle j'ai déjà un peu répondu la semaine dernière quand pour la première fois depuis 55 jours, j'ai vu un journaliste entrer dans le studio et s'avancer physiquement vers moi, en l'occurrence Mathieu Charrier, et que j'ai pas pu m'empêcher de lui dire
« Comment ça va ?»
Ça va Charrier ? Mets-toi bien loin de moi. Eh bien, je crois que c'est clair. Au bureau, ceux qui étaient sympas avant le confinement seront toujours sympas.
Ouais,
et ceux qui étaient
exactement.
Imbuvables resteront imbuvables, surtout s'ils sont hypochondriaques. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous êtes quel team ? Vous, team sympa ou team comme moi ?
Moi, je suis un peu comme vous, totalement associable. Donc,
C'est pour ça qu'on s'aime bien avec Duteil. On est un peu pareil. Donc aujourd'hui, vous avez imaginé, vous avez enquêté sur le monde d'après au
alors,
bureau.
Alors, j'ai pas du tout enquêté.
Non, mais...
Non mais parce que vous allez voir, je suis très fier de ma chronique.
Ah oui,
vraiment.
Oui, vous l'avez dit en entendant.
Ouais, je suis très fier. Je me suis un peu fatigué à vous la faire,
c'est
mais
vrai.
Je ne suis parti que de mon intuition. Je me suis dit tiens, je vais tester quelque chose d'autre, et donc j'ai essayé d'imaginer en quoi le télétravail qui va assurément en partie se généraliser dans l'avenir va avoir un impact. Et vous allez voir, je vais vous emmener sur des impacts que vous n'avez même pas imaginés.
Ah
et
génial.
Ça mérite des points.
Oh là là.
C'est un journaliste qui va au-delà du journalisme. Il est incroyable. C'est Emmanuel
Duteil.
Votre rival cet après-midi, Emmanuel, est en duplex avec nous du Sud-Ouest, où le déconfinement et le retour à la vie normale a dû constituer un vrai choc, une vraie rupture, puisque bénéficiant d'un grand jardin, son quotidien confiné, c'était...
C'est la merguez.
Et maintenant, évidemment,
oui.
Ça n'a plus rien à voir. Il a repris son activité journalistique normale. Donc son quotidien, c'est... Ah, merveilleux, non, c'est vrai, c'est le Sud-Ouest. Bonjour Stéphane Blast.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
On a l'impression que son métier, c'est faire des barbecues.
Ouais, c'est pas exactement ça.
Oui, en crocs. Vous êtes notre correspondant dans la région bordelaise, Stéphane, mais pourtant, à entendre le thème de votre chronique, on a l'impression que vous êtes parti encore plus à l'ouest, carrément aux États-Unis.
Ah, en tout cas, oui, c'est une tradition que l'on a redécouverte et importée place des Quinconces. Ça consiste à aller au cinéma, mais vous le savez, malheureusement, les salles demeure fermée. Alors, on a trouvé une autre forme de projection. Une association s'est créée pour relancer un drive-in implanté au niveau de la place des Quinconces, qui est immense. Et donc, il faut imaginer un grand écran de cinéma et puis des gens qui viennent voir le film, mais en restant dans leur voiture. Alors, évidemment, ça nous renvoie à une époque que l'on pensait révolue, mais à cause du coronavirus, la revient d'actualité. Contrairement à Emmanuel, moi, j'ai fait bêtement factuel. Hein.
Ah bah,
très peu fier à mon intuition.
On va entendre ça.
Sortons la Mustang. Alors, l'arrivée chez nous du cinéma en mode drive-in ou bien la vie de bureau post-Covid, quel sujet vous intéressera le plus ? La réponse tombera juste avant 18h, mais tout de suite Eva, c'est l'heure du mix.
Oui, avec Sébastien Bordonave, on adore se perdre sur les réseaux sociaux pour y dénicher des extraits drôles et décalés, comme l'humoriste Sandrine Saroche sur Paris Première qui chante le déconfinement sur la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, il y est question des femmes. Et quant à Louis Chédid, il fait tout comme son fils Mathieu, un petit concert depuis chez lui. Et je vous propose de commencer avec Lison Daniel, c'est le nouveau phénomène Instagram. Elle campe une Parisienne plus vraie que nature qui rêve de devenir actrice.
Bah sinon meuf, ouais moi je me suis relevé les cheveux là. Ça change en vrai, j'ai un petit front pas mal. Tu savais que Nathalie Portman elle fait des masterclass sur internet ? Par contre ça m'a fait trop bader, elle dit règle numéro 1 pour être actrice c'est avoir de l'empathie. J'ai là genre, tant il y a plusieurs courants d'acting et moi je peux être dans celui où l'empathie on s'en branle en fait, tu vois ou pas ?
Statistique
diagnostic. 9 aides-soignants sur 10, c'est des femmes. 87% des infirmiers, c'est des femmes. 97,7% des aides à domicile, des aides ménagers et des assistants maternels, c'est des femmes.
En gros, la plupart des postes qui te permettent de rester civilisé pour pouvoir continuer de détruire la planète, c'est des femmes.
Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondue enchaînée sur la cour d'une école.
La douce voix de Louis Chédid pour finir ce mix, concocté par Sébastien Bordenave.
Quand le chef du service économie et sociale d'Europe 1 affronte le chef du service Chipo et Merguez, forcément, ça va chauffer.
Europe 1.
Et le premier à passer sur le grill sera Stéphane Place, qui a testé pour nous le cinéma en mode drive-in. Je rappelle, le concept de cette pratique venue des États-Unis est très adapté à la distanciation sociale. Un grand écran est installé en plein air sur un parking. Vous vous garez et vous regardez le film tranquillement, enfin tranquillement, jusqu'à ce que Stéphane Place se pointe avec sa fuego. Alors, le cinéma en mode drive-in, ça vous dit ou pas? A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'organigramme d'Europe 1 compte bien des postes prestigieux, des titres ronflants. Mais en interne, chacun sait quel est le meilleur poste. Dans la rédac, les journalistes l'appellent même la planque. Il s'agit bien évidemment du poste de correspondant dans le sud-ouest. Une région où on sait prendre le temps de vivre et où il n'y a jamais le feu, pas vrai Stéphane?
Moi en général, quand je mets le feu, sur le feu, je mets plutôt une entrecôte, vous voyez, je voilà. M'en vais pas.
Et oui Stéphane Place, vous êtes notre heureux correspondant à Bordeaux, où un concept très américain est en train d'être testé.
Oui, c'est vrai. Le Drive-In Festival, c'est le nom de ce festival original qui vient d'être lancé, qui est donc aujourd'hui à Bordeaux, mais on en parlera tout à l'heure, qui va continuer en France dans d'autres régions. Le principe, il est excessivement simple. Les salles de cinéma étant fermées, eh bien, on a décidé ici d'implanter un grand écran, 190 mètres carrés, sur une immense place en plein centre-ville de Bordeaux, la place des Quinconces. C'est au bord du fleuve, à côté de la Garonne. Et là, vous pouvez venir voir votre film, mais en restant dans votre voiture à trois par véhicule. Vous vous installez et puis vous pouvez donc suivre le film qui est diffusé. Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux, va nous expliquer un petit peu comment ça se passe.
Jamais besoin de baisser la vitre ou de sortir de la voiture, en garé, placé, en écoutant le son sur l'autoradio, puisqu'une fréquence a été réservée à cet effet. Tout est fait pour respecter les gestes barrières. Les voitures aussi sont placées un petit peu en hémicycle, pour s'assurer que tout le monde voit bien. Elles sont suffisamment espacées les unes des autres. C'est une initiative qui a but non lucratif. Et puis bien sûr, quand les salles de cinéma réouvrent, ce type d'initiative n'a pas vocation à perdurer. Et en plus, tout ça est assez accessible puisque 10 euros c'est à peu près le prix d'une place de cinéma, 5 euros pour les enfants. Je rappelle que si on en est contraint à regarder le film dans la voiture, c'est parce qu'on peut pas faire des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. On ne peut venir qu'en voiture.
Donc il faut bien jouer le jeu, rester dans sa voiture. Donc il faut aussi penser à nettoyer comme il faut son pare-brise, sinon dans le film il peut y avoir une grosse mouche à un moment dont on comprend pas bien quel rôle elle tient.
Mais si vous regardez le film La Mouche par exemple,
ça peut avoir du sens, oui, mais il faut vraiment que ce soit une diffusion particulière. Là ce soir par exemple c'est Whiplash,
le film Damien Chazelle,
qui est diffusé sur la place des Quinconces à 21h. On peut venir avec ce qu'on a préparé à manger, cette petite gamelle. C'est le principe, vous êtes dans votre voiture.
Il y a pas de distributeur de pop.
Il vaut mieux le faire soi-même, surtout en ce moment. Vous voyez, ça évite les contacts et ça permet les règles de distanciation. Je le signale quand même, ce festival va rester 10 jours à Bordeaux, mais ensuite il est prévu, donc dans les mêmes conditions, qu'il aille du côté de Marseille puis dans les Hauts-de-France. Et puis ça fait un peu grincer des dents. J'ai vu qu'il y avait quelques critiques, la Fédération des cinémas notamment, qui dit mais la priorité c'est la réouverture des salles.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
Pas vraiment. Et puis on a bien compris que dès lors que les salles pouvoir rouvrir, eh bien, ce type de projection en plein air allait s'arrêter. Ça n'a pas vocation à devenir une offre commerciale. En attendant, ça permet pour ceux qui en sont sevrés d'aller se faire une toile. C'est pas désagréable.
Mais surtout, Stéphane, si je comprends bien, en plus, ce sont des rediffusions de films qui datent de 2-3 ans. Donc, il n'y a pas de concurrence avec les salles de cinéma quand elles réouvriront.
Non, pour moi, c'est pas la même démarche, mais vous avez raison de le souligner. Ils ont commencé d'ailleurs samedi par la projection d'Hippocrate en hommage aux soignants, bien entendu, qui sont en première
ligne.
Très
bon film.
Dans la lutte contre le coronavirus, c'est un excellent film. Donc voilà, c'est une initiative qui, à mon sens, France mérite un coup de chapeau. C'est plutôt bien vu. Et manifestement, ça a séduit pour la première séance. Je crois qu'il y avait environ 200 voitures.
Ah, donc, pas mal.
Voilà, ouais. C'est pas si mal sur cette immense place des Quinconces.
Une belle initiative. Eva, pas d'anecdote. On a eu l'anecdote de l'hippopotame non. tout à l'heure.
J'ai jamais fait de drive-in.
Dans un drive-in.
Alors que vous
regardiez,
étiez en drive-in, l'hippopotame n'est pas arrivé.
J'aurais adoré.
Vous auriez adoré.
Non,
bien, merci.
Faire un drive-in.
Très bien. On peut se faire ça si vous voulez cet
ah
été.
Ah oui, volontiers.
Il va démarrer la Kangoo, le père Mathieu Noël, et puis il va prendre de voir un drive-in.
Alors là, Stéphane, vous êtes mort jusqu'à la fin de la saison.
Décapotable.
Oui, et je vous ferai faire un petit tour en Kangoo un de ces jours, Stéphane.
J'ai avec plaisir. Alors là, j'attends.
Europe 1.
C'est la question qui, je le sais, vous obsède lorsque vous êtes sur le chemin du retour après une dure journée de boulot, Eva.
Est-ce qu'on a un tire-bouchon ?
Non, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir ? Heureusement, vous avez la réponse et comme vous connaissez, vous avez aussi le tire-bouchon. Ça nous promet encore une belle soirée.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Avoir une connaissance encyclopédique des programmes télé est une chose, mais ce qui est le plus précieux chez Eva Rock, c'est son français irréprochable.
Oh une non,
syntaxe
arrêtez.
Toujours parfaite, des tournures systématiquement élégantes. Parfois, Eva, j'ai envie de vous demander quel est votre secret.
Mais vous ne le croirez pas si je vous le dis, donc je ne vous le dis pas.
Vous avez raison, peut-être que je ne le croirais pas si vous me le disiez. Alors,
peut-être que j'ai hésité entre deux verbes.
Oui,
voilà.
c'est souvent de là que viennent les erreurs. On hésite entre deux mots
mais
et
oui.
On en crée un troisième.
Ben voilà.
Passons plutôt directement au programme télé du soir.
Alors,
j'imagine que nous allons parler, non pas de Daniel Piccoli, mais de Michel Piccoli.
Mais exactement, un hommage à Michel Piccoli, décédé hier à l'âge de 94 ans. Alors sur le site d'Arte, par exemple, vous pouvez le redécouvrir en peintre vieillissant dans La Belle Noiseuse, aux côtés d'Emmanuel Béart, le film de Jacques Rivette. Arte qui diffusera par ailleurs dimanche Les Choses de la Vie et un portrait magnifique qui s'appelle L'Extravagant Monsieur Piccoli. Sur mycanal.fr, il y a 16 films qui vous attendent d'ores et déjà, avec entre autres Le Mépris, Max et les Ferrailleurs ou encore Belle de Jour. France 2 proposera également ce soir à 23h15 un chef-d'œuvre de Claude Sauté, Vincent, François, Paul et les autres. Et puis, en fouillant sur France.tv, Mathieu, j'ai retrouvé cet extrait de l'émission Stupéfiant, des images d'archives sur le tournage de La Grande Bouffe, avec ce quatuor d'acteurs, Marcello Mastroianni, Hugo Tonazzi, Philippe Noiret et Michel Piccoli, quatre hommes qui vont mourir de trop manger.
Accessoires et nourriture prêts à 8h, 3 dindes rôties, 5 kilos de pain, 1 kilo de caviar, 1 litre de crème chantilly, une pièce montée, une pièce de bœuf, 3 tartes aux fraises, 6 fois de canard, une marmite de fraises.
Tant pis pour la langue française, cette grande bouffe, elle vous fait bien bouffer, beaucoup bouffer.
Dans un désordre épouvantable, on commence par le boudin à 9h du matin et on continue avec un bon dessert au marron et on enchaîne avec de la choucroute et des huîtres.
Alors pour l'avoir revu récemment, La Grande Bouffe, je ne peux que vous conseiller ce film. Je suis certaine qu'Olivier Pouls sera d'accord avec moi, bien évidemment.
C'est pas un film drôle, hein. C'est un
non.
film qui est
violent. C'est très noir,
c'est très sombre,
vraiment,
hein.
Vraiment.
C'est pas rieur. Et vous nous avez promis aussi la lumière d'Ibiza.
Mais oui, pour une nouvelle...
La Luz d'Ibiza.
Exactement, pour une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle White Lines. Le pitch est très simple, la police découvre 20 ans après sa disparition le corps d'Axel Collins. Alors Axel Collins...
Oh, j'ai cru que c'est de Tarlé.
Non, Axel Collins, c'était un jeune DJ de Manchester qui était venu à Ibiza pour faire état de ses talents artistiques et puis tester au passage toutes les drogues possibles. Et sa sœur Zoé veut savoir évidemment ce qui s'est passé puisqu'on retrouve son cadavre. Elle a aujourd'hui 35 ans, elle est mariée, elle est mère de famille, elle est un peu coincée mais elle est déterminée à connaître la vérité. Alors on va être très clair, c'est une série pour adultes. J'ai rarement vu autant de drogues dans une série et dans tous les genres, donc faites attention.
Et pourtant vous travaillez dans la télé depuis 10 ans.
Exactement, et surtout à vos côtés. Donc ne montrez pas ça à vos ados. Pour le reste, c'est vraiment ambiance Ibiza, lumière du sud, de l'eau translucide, mais aussi les boîtes de nuit, la fête permanente et du sexe. Et vous le verrez, en 20 ans, ça n'a pas vraiment changé.
Est-ce que ça ressemblait beaucoup à vos vacances à Lanzarote ?
Pas du tout. Ah ouais. Non, c'était pépère, mes vacances à Lanzarote. En tout cas, dans ce décor, eh bien, Zoé, elle va rencontrer tous les anciens amis d'Axel, tous névrosés, terriblement attachants, mais détestables à souhait en même temps. Et leurs histoires personnelles sont intimement liées. Elles sont en fait de trahison, d'amour possible, impossible, voire incestueuse. Et l'arrivée de Zoé va donner une tournure dramatique à ce petit petit milieu post-hippie. Elle va d'ailleurs découvrir, au gré des souvenirs, un autre visage de son frère si chéri. Et puis l'assassin se cache sans doute parmi les anciens amis. Aux commandes de cette fiction, Alex Pina, c'est le créateur de La Casa de Papel. Alors, c'est pas la meilleure série Netflix, à mon sens. C'est un peu trop caricatural, mais je dois avouer que Le Soleil d'Ibiza...
C'est bien foutu, quoi.
Le Soleil d'Ibiza, d'abord, ça m'a réjoui, franchement, en cette période de post-confinement. Et puis surtout, on veut savoir qui a tué ce jeune homme. On veut comprendre ce qui s'est passé. Donc, Paris Relevé, ça fonctionne très bien. Ça s'appelle White Lines et c'est à voir sur Netflix.
White Lines, merci pour vos conseils télé, Eva.
Europe 1.
À quoi va ressembler la vie de bureau demain, une fois la page du Covid tournée? Nos habitudes, nos rapports à nos collègues vont-ils s'en trouver durablement changés? Emmanuel Duteil a enquêté. Vous êtes prêt, Manu? Il vous manque rien?
Une bière.
Ah, une binouze pour le chef du service éco, qui arrive juste après Benjamin Biolay. Big bisous sur Europe 1. Comment est ta peine sur Europe 1?
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
D'automne, pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta paix? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. Trois fois, tu parlais de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. À vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
À peine, en attendant donc le cover de Big Bisou qu'il nous a promis, c'était Benjamin Biolay sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il fait partie des meilleurs journalistes de cette station. Il est d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, chef du service économie et sociale. Son seul point faible, son mental. Emmanuel Dutheil ne croit pas suffisamment en lui. Et fatalement, ses adversaires retors, comme Nicolas Carreau l'autre jour, exploitent cette faille au moment du vote final. Emmanuel Dutheil, pourquoi c'est vous qui allez remporter la margoulette finalement ?
Parce que j'ai travaillé, j'ai enquêté, je vous ai apporté de l'information. Certes, j'étais pas drôle.
Non, il y croit pas.
Mais si, j'y crois. Mais j'ai beau défendre dans tous les sens, de toute façon, ça marche jamais.
Cessez, Emmanuel, ce défaitisme, puisque moi, et Dieu sait que c'était serré aujourd'hui, parce que j'ai adoré la chronique de Nicolas.
C'est de la pitié. Oh.
Un point pour Emmanuel Dutheil.
Ouais ! Et voilà.
Emmanuel, essayez de vous concentrer sur ce « ouais », cette énergie-là, c'est ce que vous allez donner dans votre chronique et c'est pour ça que vous allez l'emporter aujourd'hui. Vous avez non pas enquêté, mais vous avez suivi votre intuition pour imaginer le monde d'après au bureau, le monde d'après le Covid, évidemment.
Exactement. Donc je vais sortir d'une certaine manière ma carte boule de cristal aujourd'hui. Mais au-delà de la blague, c'est vraiment un sujet passionnant parce que cette crise a révélé un élément important. On peut beaucoup plus que ce que l'on pensait faire du télétravail. Par exemple, vous, Mathieu, vous en êtes le meilleur exemple. Vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse être possible pendant deux mois comme ça de faire une émission qui tienne la route depuis votre canapé.
Je ne sais pas si elle tenait la route, mais en tout cas, on a réussi à la faire.
Voilà, canapé et caleçon. Et même dans les boîtes réticentes, on se rend bien compte que télétravail aujourd'hui ne rime pas avec glander,
pas du tout,
au contraire.
Ouais.
Donc assurément, avec cette crise, on va aller moins au bureau dans les mois et dans les semaines à venir. De grandes entreprises comme PSA ont décidé même que le télétravail deviendrait, quand c'est possible, la norme. Conséquence de tout cela, on aura besoin de locaux plus petits.
Ah oui.
C'est la fin aussi du bureau personnalisé avec la photo du petit dernier et la plante grasse offerte par belle-maman qu'on met au travail et que surtout on ne pense à jamais arroser. Et assurément, on va avoir aussi un développement de ce qu'on appelle les lieux de coworking. Vous savez, espaces de travail partagés qui n'appartiennent pas à notre entreprise, mais au moins où on peut travailler en commun.
Et alors, c'est une mutation qui va avoir, selon vous, des conséquences multiples.
Oui, c'est tentaculaire. On va prendre l'exemple de l'immobilier. Si vous n'allez plus que deux fois par semaine au bureau, vous pouvez accepter des temps de trajet beaucoup plus longs et donc opter pour le pavillon avec jardin et chien, bien évidemment. Et dans ce pavillon, vous allez prévoir un espace confortable pour pouvoir travailler. Parce que ce qui nous a manqué pour beaucoup pendant ce confinement, c'est un espace confortable pour pouvoir travailler. Les demandes de maisons ont progressé déjà, là, en ce moment, de 12% chez La Forêt depuis le début de la crise, chez Geoxia, qui est le deuxième constructeur français qui possède notamment les fameuses maisons Phoenix. Progression de la demande en maisons individuelles de 40% par rapport à mai de l'an dernier. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'automobile. Si vous n'allez que deux fois par semaine au travail, vous n'avez plus besoin de la même voiture. Le partage de voitures, les solutions de mobilité.
Je vais pouvoir revendre la Kangoo.
La Kangoo.
Et ce ne sont pas les seules conséquences.
Oui, alors là, un autre qui va vous paraître totalement anecdotique. Mais si vous allez moins au travail, vous avez moins besoin de chemise ou de la petite veste.
C'est vrai.
Ça fait 3 mois que je n'ai pas acheté une fringue.
Donc là aussi, complication à venir pour les magasins de vêtements. Autre delta auquel vous n'avez sûrement jamais pensé, pour les pressing. Parce que pourquoi on va au pressing ?
Souvent pour les hommes, pour y mettre les chemises.
Et les femmes, très régulièrement, pour ce qu'elles mettent principalement au travail ou pour quelques tenues un peu plus apprêtées. Donc on va beaucoup avancer là-dessus, mais on va aussi avoir un changement majeur pour la restauration de travail. Nous, on le voit ici, à Europe 1. On est revenu, mais pour le moment, nous n'avons pas de cantine parce que ce n'est pas possible de mettre en place la distanciation qui est requise au niveau de la cantine. Il va falloir repenser complètement l'offre, mais également repenser l'offre pour les restaurants ou les boulangeries qui travaillent directement. On n'y pense jamais pour les boulangeries, mais l'énorme partie du chiffre d'affaires dans les grandes villes, c'est les sandwichs le midi. On a l'impression, quand on n'a pas l'habitude d'y aller, que c'est pour acheter notre pain et tout ça. Non, si elles ont eu un impact majeur également le secteur de la boulangerie pendant la crise, c'est à cause de cela, parce que les gens qui travaillaient ne venaient pas.
Voilà. Et alors, le côté gagnant d'une telle transformation,
eh bien, ce sont les mêmes, nos amis les GAFA et leurs applications de messagerie, de conférences en ligne qui vont bien évidemment être boostées. Mais tout ça, ça pose une sacrée question, une question de souveraineté. Parce que comme nous n'avons pas de solution ou presque pas de solution française et européenne en la matière, on va se retrouver totalement assujettis à ces solutions. Mais au moins, nous, on aura le mieux. On aura un chien et un pavillon.
Et une maison Phoenix. Vivement l'avenir. Moi, j'ai une petite question, Emmanuel, parce que c'est le revers de la médaille. Si on prend notre exemple, nous ici, faire l'émission chacun chez soi et tout ça, ça tourne. Mais le problème, on a quand même un manque de contact humain.
Oui, mais c'est pour ça que je suis parti.
J'avais quand même le manque de vous, de mes collègues.
C'est pour ça que je suis parti du préalable. Je ne crois pas, à titre personnel. Je vous dis une fois de plus, cette chronique chronique, j'ai essayé de l'imaginer en fonction des contacts que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, mais c'est plus mon intuition personnelle que quelque chose que le secteur est en train de travailler.
Si, quand même,
mais,
les chiffres de l'immobilier.
Oui,
vous avez
l'immobilier,
mais ce qui est totalement certain, c'est qu'il n'y aura pas un télétravail perpétuel. Mais les deux points qui sont apparus pendant ce confinement les plus compliqués, c'est le fait de manque de relations sociales, mais qui était complété par le fait qu'on ne voyait pas non plus nos amis. Donc c'était double. Et également le fait, et ça c'est un point à régler, et les partenaires sociaux ont lancé une discussion là-dessus, que là c'était un télétravail tellement particulier que d'une certaine manière il ne s'arrêtait jamais. On n'avait que ça à faire, donc on trouvait normal d'envoyer un mail à 22h pour travailler.
Il y a eu ça aussi.
Mais le monde de demain devra être aussi cadré en fonction de toutes ces évolutions.
Vivement le monde de demain avec Emmanuel Duteil. Merci Manu.
Europe 1.
En attendant justement que les stars fassent leur retour en studio, on continue Eva chaque après-midi de se remémorer les bons moments passés avec elle. Des rencontres souvent sublimes, notamment quand les stars découvraient Olivier Pouls et ses célèbres dérapages géopolitiques. La chanteuse Rose s'en souvient encore et on était avant le coronavirus.
Je vous proposais de faire du riz sauté. C'est un plat qu'on trouve dans toute l'Asie avec autant de versions pratiquement que d'asiatiques, c'est dire.
C'est presque raciste.
Mais non, mais pas du tout. Bon, ils sont nombreux. Et c'est pas moi qui ai inventé qu'il y ait 1,4 milliard de Chinois quand même.
Dans quelques secondes, retour sur un après-midi délicieux avec Rose.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Dans l'équipée sauvage, les invités étaient formidables, mais les invités EES encore plus. Je me souviens ainsi d'un jour de septembre où nous recevions la chanteuse Rose. Entre elle et moi, le courant est tout de suite passé. Un peu trop, peut-être, au goût de son mec qui était aussi son guitariste et qui accordait sa guitare à côté de nous pour le live. On est bien, mais on est un peu trop nombreux dans ce studio. On serait encore mieux juste Rose et moi. J'allumerai une bougie diptyque, je sortirai mon saxophone.
J'ai eu peur quand même.
D'abord le saxophone. Rose était donc notre invitée le 23 septembre dernier et son mec n'était pas guitariste, comme je l'ai dit.
Ma mémoire
me joue des tours, il était pianiste.
Non, c'est que vous ne le regardiez pas du tout, vous regardiez que Rose.
Je regardais plus Rose, ouais, c'est pas faux. C'est tout par les faits. C'est va prononcer le nom de notre invité du jour.
Ah, mais j'ai aucun problème à le prononcer, d'autant que je suis très heureuse qu'on reçoive Rose aujourd'hui.
Rose, vous l'avez bien dit.
On avait vu ça.
C'est des années de travail pour arriver à ce Rose. Rose, personne n'a oublié la liste en 2006, surtout pas les milliers d'hommes qui sont secrètement tombés amoureux de vous en l'écoutant, c'est FBB. Vous êtes de retour avec un nouvel album et un livre. Les deux s'intitulent Kérosène, un titre qui dévoile un peu la teneur du projet, puisque Kérosène, c'est un mix de votre nom de scène, Rose, et de votre vrai prénom, Keren. Dans ce livre et cet album, on découvre cette Keren qui se cachait jusqu'alors derrière Rose et qu'on ne connaissait pas.
C'est ça, tout à fait bien.
Mais qui est cette Keren ?
Ben, il faut lire le livre, mais mais non, c'est celle qui existait avant Rose, et donc c'est celle qui aujourd'hui est toujours là. Mais ce sont les mêmes personnes, tout simplement. C'est juste la façon en fait, c'est le regard des gens qui est différent sur Rose ou sur Keren. En fait, c'est pas moi. Je pense que c'est la même personne. Je suis pas totalement folle.
Vous n'êtes pas devenue schizophrène complètement. C'est un bon point pour commencer. Rose, vous êtes fait connaître en 2006 avec votre titre La Liste. Vous avez connu un énorme succès. Mais pendant cette période de gloire, vous avez vécu une descente aux enfers que vous racontez dans cet album, dans ce livre qui va sortir le 3 octobre. Addiction à la drogue, à l'alcool. On va revenir en détail au cours de l'émission. Chaque chanson correspond à un chapitre du livre. C'est vraiment un double projet qui a été mené de front. Comment est née l'idée de ce concept ?
Eh bien, j'ai eu de la chance que ce concept n'ait pas eu besoin d'être tiré par les cheveux, ou j'ai pas été le chercher. Il s'est un peu imposé à moi, tout simplement parce que le livre a été le point de départ de ce projet, et que le livre n'était même pas susceptible d'être édité. Enfin, je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Je voulais juste écrire tout ce que j'avais vécu pour moi-même, pour m'en rappeler, pour le graver. Aussi, j'avais cette impression d'écrire pour mes proches, peut-être pour avouer quelque chose. J'avais besoin, en tout cas, de dire la vérité, puisque j'ai tellement menti toutes ces années.
Parce que vos proches ne savaient pas que vous alliez mal.
Que j'allais mal, si. Mais pourquoi ?
Pour les vraies raisons.
Les vraies raisons, non. Et franchement, j'ai l'impression aussi que quand on avoue tout ça, c'est comme un garde-fou, quoi. J'ai l'impression, en tout cas maintenant, qu'on me surveille. Et que de toute façon, même si je voulais, je pourrais pas.
Vous pouvez plus vous permettre.
Bah non, mais là, vraiment, on me surveille.
Vous dites, j'espère que mes mots pourront aider et que les gens comprendront que ce n'est pas parce que vous passez dans l'émission de Michel Drucker que vous allez bien.
Mais c'est vrai.
Bien résumé.
Mais c'est vrai. Tellement vrai.
Aujourd'hui, vous vous définirez comme quelqu'un d'heureux. Cet album a une vertu thérapeutique pour vous, ou vous êtes encore, disons, en convalescence ?
Non, je pense que je suis comme tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire avec des moments de doute, parfois on a des mauvais jours, on n'est pas heureux tous les jours, c'est sûr que non.
Sauf Eva, c'est pas trop
mais justement, j'aimerais lui poser quelques questions.
D'ailleurs, ça cache peut-être un sombre secret. Hein, vous savez,
Souvent. Non, je pense pas qu'on se définisse comme heureux, mais je pense que je travaille pour ça et que ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, je travaillais pour l'opposé. J'étais ma propre ennemie, voilà. J'étais une arme de destruction massive pour moi-même. Et là, je vois chaque jour que je découvre des choses qui me font du bien. Et puis, le bien-être apporte forcément du bonheur et de la stabilité, ouais.
Et Varoc.
Peut-être qu'il faut rappeler pourquoi vous vous appelez Rose. D'où il vient ce prénom?
Elle a plus bien dit. Voilà. Elle a dit Rose. Elle a tout donné pour le premier Rose. Elle a tout donné pour le premier Rose. Alors, Rose, ça vient de The Rose. Pense anglais, Eva.
Rose. Moi, c'est encore pire. Il pense anglais.
The Rose, le film de Mark Rydell avec Bette Midler. Et donc, qui s'inspire de la vie de Janis Joplin. Et c'est inspiré seulement, mais c'est vrai que quand on a déjà cette passion pour ce genre de destin tragique, autodestructeur, j'étais passionnée par Janis Joplin et je le suis toujours. Et d'ailleurs, prochainement, ça sera l'anniversaire de sa mort, le 4 octobre 70, c'était. Et je suis encore aujourd'hui, j'ai cette impression que on peut pas exister autant que quand on meurt jeune comme ça. Enfin, je veux dire, quelque part, l'autodestruction amène aussi un surplus de vie. Et moi, je voulais ça. Je voulais que ça brille, que ça vive très, très fort. Mais sauf que je crois que je n'avais pas envie de mourir finalement. Et que j'ai pas. Non, mais finalement, heureusement, il y avait cet instinct de survie qui était là. Et je me suis dit, c'est pas ça que je veux, non.
Europe 1.
Qui dit déconfinement dit reprise des repas de famille pour certains, retrouvailles du dimanche, confidences, tendresse, boutade traditionnelle, gigot patate. Oh, comme ça vous avait manqué.
Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde ! Je t'emmerde tous avec vos dimanches, petit gigot à la con ! Merde !
Eh bien, si vous trouvez que le gigot est con, passez directement au dessert. Cette semaine, Olivier Pouls vous donne 5 recettes sucrées qui rendront toute engueulade familiale impossible. C'est juste après Billie Eilish, Everything I Wanted sur Europe
1. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. I had a dream. You with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change yourself, you wouldn't wonder why they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again?
Everything I Wanted sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Accueillons à présent Olivier Pousse, le Che Guevara du terroir. Fin gastronome, palais délicat, puriste du terroir, le Che Bourguignon s'engage quotidiennement contre la malbouffe et les industriels qui la promeuvent. Chaque week-end, il fait des tours en Hummer autour du McDonald's, non loin de sa demeure bourguignonne, avec un mégaphone.
Assassin, pollueur, fumier, dégueulasse, ordure, macro, exploiteur, industriel.
Et vous aurez reconnu, Eva.
J'ai pas reconnu.
Michel Piccoli.
Ah, c'est vrai ? C'était dans quel lui. Film vous
C'est vrai,
pas
lui. Il a fallu attendre 1h45 pour que vous arriviez à le dire correctement.
Non, oui. Et comme j'y arrive pas, heureusement que j'ai rien dit. Voilà,
mais
comme
n'oublions
ça.
Pas, il est en ligne avec nous, le Che Bourguignon. Bonjour Olivier Pousse.
Et oui, il y a du piccoli en moi, chers amis, car j'aurais pu parfaitement prononcer ces mots.
Et mais vous auriez pu surtout participer à la grande bouffe sans effets spéciaux, contrairement à Michel.
Ah bah là, je vous confirme. Mais c'est un peu ça tous les week-ends chez moi, figurez-vous.
Mais ne mourrez
je
pas quand même.
Je perpétue la tradition.
Non, essayez de rester vivant, Olivier Pousse. Chaque jour de cette semaine, vous nous proposez une idée de recette dessert, du sucré. Hier soir, on a eu droit à une tentative audacieuse, je dirais, hein, des petits pois verveine. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ?
Eh bien, lardon chocolat blanc, si vous voulez. Non, là, je plaisante. Non, on va faire quand même plus facile, plus classique, on va dire. Mais quand même quelque chose qui déboîte et qui devrait demain vous permettre à la cantine de rendre jaloux Jean-Mi de la Conta, qui lui va sortir, vous savez, une mousse de chocolat chez Mamie Nova. Et vous, eh bien, en face, vous allez sortir votre panna cotta fraise basilic maison. Il va y avoir des jaloux.
Oh oui, alors racontez-nous comment ça se fait une panna cotta.
Eh bien, c'est très facile et surtout c'est très rapide. Je vous garantis moins d'un quart d'heure en cuisine ce soir pour la préparer. Alors suivez-moi bien. Vous allez prendre pour deux panna cotta, parce que bien évidemment vous allez en préparer une pour votre conjoint ou votre conjointe, histoire de regagner quelques points après le confinement. Donc pour deux panna cotta, vous allez prendre un beau verre de crème liquide, un demi-verre de sucre, une feuille de gélatine, quelques feuilles de basilic, une belle poignée de fraises, une petite touche de miel et de citron vert. Alors c'est parti. Vous mettez dans votre casserole à bouillir la crème avec le sucre. Dès que vous atteignez l'ébullition, vous mettez dedans à infuser vos feuilles de basilic. Vous coupez le feu, vous laissez infuser 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez préparer votre coulis de fraises. Les fraises, on les mixe avec une cuillère à café de miel, un petit trait de citron vert, mon petit secret, une petite goutte d'huile d'olive. Et vous mixez tout ça en un joli coulis. Dès que votre liquide, votre crème liquide a refroidi et a infusé, vous enlevez évidemment les feuilles de basilic, vous reportez à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, vous rajoutez votre feuille de gélatine que vous avez préalablement laissé tremper dans un petit peu d'eau. Vous l'égouttez, vous la mettez dedans, vous mélangez tout ça et vous coulez ça dans deux verres. Vous laissez prendre pendant 3 heures au frigo, la panna cotta est prête. Il n'y a plus qu'à disposer par-dessus votre coulis et râper un tout petit peu de zeste de citron vert. C'est parti, vous êtes le champion de la cantine demain, je vous le garantis.
Je n'ai rien compris, mais nos auditeurs qui sont plus futés que moi auront certainement tout noté et réaliseront cette recette qui en revanche m'a mis l'eau à la bouche. Merci Olivier Pousse, on vous retrouve demain.
Europe 1.
Le dénouement est proche, les amis. Ils étaient 4 aventuriers du journalisme. Dans quelques instants, il n'en restera qu'un. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Emmanuel Duteil brisera-t-il le cycle infernal de la loose ? Eva, vous pouvez voter pour lui, vous savez.
Vous seriez pas la première à avoir envie, mais à ne pas le faire.
Non. Pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Une fois de plus, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se sont affrontés. Une fois de plus, nous vous laissons à 18h plus cultivés qu'à 16. Il faut dire que ces derniers temps, le niveau est particulièrement élevé. Mais le Dalai Lama,
il est toujours vivant, ouais.
Bah oui, c'est fou.
Ouais.
Enfin, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'album, hein, quand même.
Et oui, c'est formidable de se cultiver, mais hélas, l'équipe est sauvage, est une compétition. Il nous faut désigner un vainqueur. Qui sera élu chroniqueur du jour ? C'est l'heure du quito double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre. Stéphane Place, notre correspondant dans la région bordelaise, pourquoi voter pour vous et votre drive-in aujourd'hui ?
Parce que je vous propose d'aller voir des films qui sont de très bons films, dans des conditions qui vous permettent de respecter les précautions sanitaires, et en plus sous le regard bienveillant Place des Quinconces de Montaigne et Montesquieu. Ouais. Franchement, c'est pas mal.
C'est pas mal. Emmanuel Duteil, chef emblématique du service éco d'Europe 1, pourquoi voter pour vous ? Et votre chronique du jour ?
Parce que j'ai eu l'impression de vous intéresser et surtout parce que je pense que c'est un sujet dont on va énormément parler dans les années à venir. Et je suis sûr que derrière leur poste, à la maison, dans la voiture, les gens se sont dit Ah tiens, ce coût du pressing, j'avais pas du tout pensé à ses économies à venir.
Il a raison, le bougre.
J'ai entendu un certain Mathieu Charrier, à qui nous allons adresser la parole tout à l'heure, glousser. Nous verrons s'il a eu raison de glousser.
Il glousse toujours quand c'est bien tour.
Fred Goetti, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Ça me ferait plaisir que vous votiez pour moi parce que vous voteriez pour une bonne cause. Le retour de la musique live. Sans public pour l'instant, mais la vie est un éternel recommencement.
Le retour de la musique live sans public, ça sonne quand même bizarre.
Oui, ça fait bizarre.
Mathieu Charrier, l'homme qui glousse. Alors Mathieu Charrier, avant de vous demander pourquoi il faudrait voter pour vous, il faudrait déjà vous dire d'arrêter d'envoyer des messages à la régie puisque vous avez envoyé un texto à Romain Cosier, notre réalisateur, pour tenter de le soudoyer. Texto qui dit « Tu votes pour moi, point d'exclamation, tu as vu le timing parfait, propre.
Oh »
Alors
là
voilà
là.
Comment il essaye de convaincre un réalisateur qui vote.
Alors, vous avez oublié la suite, j'ai mis propre, nickel.
Propre, nickel. Oui, alors pourquoi voter pour vous à part les magouilles?
Bah, écoutez, une chronique grâce à laquelle on a découvert que vous aviez été attaqué par un requin et Eva Rock coursé par un hippopotame. Pardon, mais je vois pas comment je peux faire mieux.
C'est vrai que je dois dire que vous nous avez poussé loin dans nos derniers retranchements.
Ah oui, c'est vrai, on a bien
couru. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Oh oui, je le donne. Je le donne à Emmanuel Duteil.
Ouais.
Oh oui, quelle belle chronique basée sur son intuition. Ah, j'aime bien quand il se donne comme ça pour un sujet. Ouais. Un point pour Duteil. Eva Rock.
Ah, Emmanuel Duteil aussi.
Aussi.
Ouais.
Mais dis donc, ça frôle l'unanimité. Voyons voir si Romain Cosier, notre éditeur, est sensible au pot de vin. Et
il ne peut plus maintenant. C'est impossible. Voilà. Même s'il avait voulu voter pour Mathieu.
Quel est votre choix, Romain?
Mathieu, je vais voter pour Mathieu Charrier. Et les
C'est vraiment magouille.
C'est vraiment moche.
Et compagnie, il nous faudrait un huissier pour vérifier
tout
ça.
Sûr
que Mathieu lui a proposé des places de cinéma gratos en plus.
Certainement, oui.
Alors, remettre en cause l'intégrité de notre réalisateur, c'est ça, Emmanuel?
Oui, c'est ce qu'on fait.
Bravo, c'est beau.
Dévoilons, Eva, le vote des auditeurs.
Et 2 points pour Emmanuel Duteil.
Oh, dit-on, une victoire de Dudu. Victoire de Dudu avec 4 points.
Mais oui. Du grand chelem, je suis
déçue. C'est magnifique, c'est magnifique. C'était, les amis, la 176e journée de l'équipe sauvage.
La plus belle.
Je vous remercie, mes confinés du jour. Eva Rock, Fred Goetti, Stéphane Place, Mathieu Charrier, Olivier Poulce, c'est notre grand gagnant, Emmanuel Duteil, Romain Causeur et Christophe Pierrot en régie. L'équipe sauvage revient demain, 16h, tout de suite. Restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir, Nathalie.